Un journal présenté ce soir par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Son mandat aura été scandé par les crises financières. Mario Draghi a fait ses adieux cet après-midi à la Banque Centrale Européenne. Après 8 ans à la tête de l'institution, il passe le pouvoir à la française Christine Lagarde. Nous serons en direct de Francfort avec Delphine Simon au début de ce journal. Les 27 États membres autorisent Londres à reporter de 3 mois le Brexit et le feuilleton se poursuit ce soir dans la Chambre des communes. Le Premier ministre Boris Johnson et des partis d'opposition tentent d'obtenir des élections anticipées au mois de décembre. Précision à suivre d'Antoine Gignot. La colère a explosé il y a 10 jours. Le Liban, toujours paralysé ce soir, des manifestants bien organisés et déterminés à faire partir la classe politique au pouvoir, va nous dire Chloé Doma. En France, le Conseil français du culte musulman s'organise après l'entrevue de ce matin avec Emmanuel Macron à l'Élysée. 40 ans après la mort du ministre gaulliste Robert Boulin, une reconstitution officieuse ce matin dans les Yvelines à l'initiative de sa fille et de son avocate. Et puis gros plan à la fin de ce journal sur le remboursement des fauteuils roulants. L'association des paralysés de France s'inquiète d'un article dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Après 8 ans à la tête de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi fait ses adieux à l'institution, institution d'importance qui définit la politique monétaire de la zone euro. L'Italien sera remplacé à partir de jeudi par la Française Christine Lagarde et la cérémonie de passation de pouvoir s'est tenue en Allemagne à Francfort cet après-midi. Francfort où se trouve le siège de la BCE. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour France Culture et vous avez assisté à cette cérémonie rituelle où les nombreux chefs d'État présents, dont Emmanuel Macron, ont fait le bilan des années Draghi, des années qui n'ont pas été de tourpeau dans la zone euro.
Oui, c'est Super Mario, sauveur de l'euro, que les chefs d'État saluent avant tout. Son courage, sa créativité, lorsqu'en pleine crise de l'euro, alors que les spéculateurs attaquaient les dettes italiennes, portugaises et espagnoles, il affirme que la BCE fera tout ce qui est nécessaire pour sauver la monnaie unique. Ce « whatever it takes », c'est un modèle à suivre pour les dirigeants politiques, affirme Emmanuel Macron, qui rend hommage à l'humaniste et à l'européen convaincu. Vous avez montré que l'euro est populaire, il est irréversible, explique à son tour la chancelière allemande Angela Merkel, qui salue en Mario Draghi le défenseur de l'indépendance de l'institution financière, alors que les critiques se multiplient au sein du directoire de la Banque des Banques contre la reprise de la planche à billets. Le mois dernier, la représentante allemande a même démissionné. La chancelière allemande qui souhaite bonne chance à la nouvelle présidente de la BCE, Christine Lagarde, première femme à ce poste et avocate de métier, elle devra aussi plaider pour des politiques budgétaires nationales plus ambitieuses, mieux coordonnées, comme le faisait Mario Draghi, sans grand succès, car l'Allemagne refuse toujours de dépenser ses marges budgétaires. La Française pourrait jouer de sa proximité avec Angela Merkel. Elle va même apprendre l'allemand, assure-t-elle. Mario Draghi lui a transmis sa clochette de président. Cette clochette posée sur la table du Conseil des gouverneurs. « Je ne m'en suis jamais servi en 8 ans », a conclu Super Mario, discret mais déterminé.
Merci Delphine Simon, vous étiez en direct de Francfort avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Autre actualité importante pour l'avenir de l'Union européenne, les 27 États de l'Union européenne ont accepté un nouveau report du Brexit ce matin, un report flexible, a précisé le président du Conseil Donald Tusk. La date limite a été fixée au 31 janvier 2020. Le président du Parlement européen David Sassoli a salué cette décision, elle donne du temps au Royaume-Uni pour clarifier ce qu'il veut, a-t-il précisé. Le Royaume-Uni, justement, où nous vous rejoignons. Antoine Gignot, bonsoir.
Bonsoir.
Nouvel après-midi de tension à la Chambre des communes. Le Premier ministre Boris Johnson tente de convaincre l'opposition d'accepter la tenue d'élections législatives anticipées.
Oui, il est en route pour la Chambre des communes. Boris Johnson, il y sera dans quelques minutes. Elles sont indispensables pour le Premier ministre, ces élections, parce que s'il veut reprendre la main, il lui faut une majorité au Parlement. Il propose aux députés d'organiser un scrutin le 12 décembre. Pas sûr qu'ils acceptent. Les libéraux démocrates, notamment, préféreraient le 9 décembre, à une date où les étudiants ne sont pas encore en vacances et susceptibles de voter. Ce n'est pas anodin. Les 18-25 ans sont majoritairement contre le Brexit. Et cette guerre des dates pourrait aussi bloquer les débats autour de l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Londres avec Bruxelles. En clair, rien n'est vraiment clair. La seule certitude ce soir, c'est qu'il n'y aura pas de Brexit le 31 octobre. Un gigantesque échec pour Boris Johnson. Rappelez-vous les phrases qu'il a prononcées ces dernières semaines. Nous sortirons coûte que coûte. Je préfère mourir dans un fossé plutôt que de demander un report. Eh bien, malgré les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, malgré les messages sur le site du gouvernement qui continue d'afficher ce soir « Préparez-vous à la possibilité d'un Brexit sans accord », c'est fait, le report. Et là, le Premier ministre ne fait aucun commentaire sur le sujet. Il laisse le porte-parole du 10 Downing Street répondre aux questions des journalistes pour expliquer que si les délais n'ont pas été tenus, c'est uniquement à cause des parlementaires.
Merci Antoine Gignot pour vos précisions en direct de Londres. En Italie, la presse fournit les preuves de ce que plusieurs ONG pressentaient. Les autorités du pays ont bien coopéré en 2017 avec des trafiquants d'êtres humains pour bloquer les arrivées de migrants en Europe. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
Une image en particulier, une photo, c'est celle d'une réunion entre représentants libyens, gardes-côtes italiens et fonctionnaires de l'Organisation internationale pour les migrations. Cette photo, elle a attiré l'attention des journalistes.
Oui, elle date de mai 2017. Et c'est le quotidien L'Avvenire qui l'a dévoilé au début du mois. Une photo prise dans le centre de Cala di Mineo, le plus grand centre de rétention de migrants en Sicile. Abdelrahman Al-Milad, connu aussi sous le nom de Bija, petite barbe, costume gris clair, participe à une réunion aux côtés de fonctionnaires italiens et internationaux. Attentif, il prend des notes. Un autre cliché officiel, celui-là, pris à Rome le même mois, le montre prenant la pose aux côtés de gardes-côtes italiens et de fonctionnaires de l'Organisation internationale pour les migrations. Les photos embarrassent l'Italie. Elles dévoilent en effet que l'Europe a directement traité avec un trafiquant libyen, Bija, en voyage officiel dans la péninsule. Un déplacement consacré aux opérations de sauvetage en Méditerranée était pourtant déjà bien connu à l'époque. Différents journaux, dont l'Avvenire, avaient brossé le portrait de ce trafiquant d'êtres humains, chef de milice qui n'a pas hésité à faire tirer sur des embarcations de migrants ou de navires d'ONG tentant de les secourir, qui ramène les migrants interceptés en mer dans des centres décrits comme l'enfer et choisit qui peut ou non embarquer, un homme qui terrorise et a depuis été placé par l'ONU sur une liste de dirigeants interdits de quitter la Libye dont les avoirs sont gelés pour actes de torture. Rappelons que depuis l'été 2018, la Libye a la main sur les opérations de secours en Méditerranée centrale. L'Italie lui a concédé cette tâche avec la bénédiction des dirigeants européens. L'objectif étant de faire cesser les départs de bateaux tout en empêchant les navires des ONG internationales dans la zone. Apportant un soutien technique et financier aux gardes-côtes libyens, l'Union européenne et l'Italie ont donc délégué la gestion de leurs frontières extérieures à la Libye. La milice de Bija opère d'ailleurs sur une vedette financée par l'Union européenne.
Merci Marie-Pierre Véraud pour vos explications. Au Liban, ce sont les images d'une immense chaîne humaine qui occupe la presse aujourd'hui, l'image d'une foule joyeuse sur 170 km qui a affiché hier son unité et sa détermination à faire partir la classe politique au pouvoir. Les manifestants aujourd'hui, ont renforcé leur barrage routier, Chloé Doma.
Le pays est toujours paralysé. Banques, écoles, universités fermées, idem pour les administrations et de nombreux magasins. Sur la place des Martyrs, centre névralgique de la mobilisation à Beyrouth, les manifestants ont installé des tentes, des générateurs et des kiosques. Et c'est un des faits marquants ces derniers jours. On assiste à une réappropriation de l'espace public par les Libanais. Beaucoup d'initiatives citoyennes, ramassage des déchets le matin, distribution d'eau, de nourriture, mais bien sûr aussi de plus en plus de débats et de cercles de réflexion pour tenter d'organiser la suite du mouvement. Aujourd'hui encore, la plupart des grands axes routiers du pays sont bloqués. Les manifestants tiennent des barrages. Le but, empêcher les Libanais de se rendre au travail et décentraliser le mouvement, pousser les gens à manifester dans les régions. Paris jusqu'à présent réussit, puisque l'ensemble du pays reste mobilisé. De Tripoli, la grande agglomération sunnite du nord, en passant par Jalaldib, la banlieue chrétienne de Beyrouth, et jusqu'au sud, des villes à majorité chiite comme Nabatieh ou Tyr. Les promesses des dirigeants n'y font rien, les menaces non plus. Les manifestants tiennent la rue et ils y restent.
Le reportage de Chloé Doma. Une semaine après la mobilisation historique contre les inégalités sociales au Chili, le président Sébastien Piñera remplace 8 ministres sur les 24 de son gouvernement. En Bolivie, l'opposition veut intensifier la contestation après la réélection controversée d'Evo Morales au pouvoir depuis 2006. À l'appel de Carlos Mesa qui a gouverné le pays entre 2003 et 2005, le mouvement de colère touche ce lundi la capitale, La Paz, avec de nombreux blocages et des affrontements affrontements entre forces de l'ordre et civils. En Argentine, au lendemain de la victoire à la présidentielle du candidat péroniste Alberto Márquez, le gouvernement a autorisé un durcissement du contrôle d'échange. Il s'agit de préserver les réserves monétaires du pays face à une demande de dollars inhabituelle depuis la semaine dernière, a expliqué le président de la Banque centrale. Par ailleurs, la bourse a perdu 3% à la mi-journée. La Russie réagit à la mort hier du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, l'homme le plus recherché du monde, tué par une intervention américaine. Le Kremlin salue une importante contribution à la lutte contre l'État islamique, mais dit attendre la confirmation de cette information. En 2017, en effet, la Russie avait affirmé avoir probablement tué Baghdadi près de la ville syrienne de Raqqa. En France, après la polémique lancée par un élu RN sur le port du voile en région Bourgogne-Franche-Comté, Emmanuel Macron a convoqué ce matin les représentants du culte musulman à l'Élysée. Le président, accusé d'inertie par ses opposants sur le sujet de la laïcité, a demandé, je cite, de combattre davantage l'islamisme et le communautarisme responsable, selon lui, d'une forme de séparatisme en France. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Le CFCM s'est engagé à passer à l'action. Il réunit dès demain matin son conseil religieux.
Oui, le président de la République et les représentants du Conseil français du culte musulman sont tombés d'accord ce matin sur la nécessité de lutter contre le communautarisme et traquer les signes de radicalisation, mais sans tomber dans l'amalgame entre islam et terrorisme. Le vice-président du CFCM, Anouar Gbegbesh, se livre à un rapide compte-rendu de l'entrevue.
Le président nous a fait part de sa très grande inquiétude au vu de la tournure des débats et des polémiques à répétition, et notamment par rapport au dernier sondage du JDD qui indique qu'une majorité de Français considèrent que les valeurs de la République ne sont pas compatibles avec l'islam. Nous avons également nous-mêmes exprimé notre compréhension de cette grande anxiété de nos concitoyens. Maintenant, il y a aussi la grande inquiétude des musulmans de France eux-mêmes qui se voient stigmatisés dans leurs pratiques religieuses. Et les citoyens français de confession musulmane sont des citoyens à part entière. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que leurs concitoyens. Et il n'est pas question d'avoir des mesures ou des lois d'exception qui les viseraient plus particulièrement.
Le CFCM ne nie pas pour autant le développement du communautarisme et la radicalisation rampante d'un certain nombre de musulmans. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a dit attendre du Conseil français du culte musulman un changement de rythme dans la lutte contre le communautarisme et l'islamisme. Message reçu apparemment. Pour réfléchir à ces questions, le CFCM va réunir demain matin, vous l'évoquiez, son conseil religieux. Ce conseil, composé d'une trentaine d'imams et de théologiens, va se pencher sur la place de l'islam au sein de la République et a promis des annonces fortes dès l'issue de la réunion demain. Le problème à ce stade est la représentativité du CFCM, minée par les querelles intestines entre communautés, algériens, turcs, marocains. Le résultat est qu'il est finalement très peu écouté par la communauté musulmane.
Des précisions signées Stéphane Robert. Des coups de feu ont été tirés cet après-midi au niveau de la mosquée de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Selon nos confrères de France Bleu Pays Basque, il y a deux blessés. Un suspect, un ancien militaire de 84 ans, aurait été interpellé dans les Landes. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, exprime sa solidarité et son soutien aux musulmans. Quelle réponse du gouvernement après le rapport d'audit accablant sur le chantier de l'EPR de Flamanville dans la Manche? Il a été remis ce matin au ministre de l'Économie. Bruno Le Maire en a tiré les conclusions. Il réclame à EDF un plan d'action d'ici un mois pour tirer les leçons de cet échec. Précision Anne-Laure Jumy.
Flamanville devait être la vitrine du nucléaire français, mais c'est un échec, a martelé ce matin le ministre de l'Économie. Avec des coûts trois fois plus élevés que prévu et un retard de plus de 10 ans, les déboires de ce chantier ont notamment révélé un gros problème de compétences, explique Bruno Le Maire.
L'EPR a été lancé plus de 15 ans après le lancement, la construction, la dernière génération de réacteurs. De nombreuses compétences ne sont par conséquent plus disponibles pour la construction de Flamanville. Et cela est particulièrement vrai pour les soudeurs, de nombreux retards ont été causés par des défauts de soudure à divers stades de la construction de Flamanville, tout simplement parce que nous n'avons plus les compétences. La plupart des soudures de Flamanville ont d'ailleurs dû être réalisées par des sous-traitants étrangers.
Une question que devra régler EDF dans le plan d'action qu'elle présentera d'ici un mois. Mais au-delà, quel avenir pour l'EPR? Pour l'auteur du rapport, l'ancien patron de PSA, Jean-Martin Foltz, il faut en construire de nouveaux pour justement donner envie à la filière d'investir. De quoi satisfaire le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy.
Cette technologie qui est aujourd'hui prouvée, puisqu'elle fonctionne remarquablement bien à Taishan depuis un an, est une technologie qui a vocation à perdurer.
Mais sur l'avenir de l'EPR, le gouvernement n'a pas encore fait d'annonce. Ça devrait intervenir dans la dernière partie du quinquennat. Au ministère de l'écologie, on précise même que la décision est suspendue au démarrage de Flamanville, prévu désormais fin 2022.
Explication Anne-Laure Jumet. Patrick Balkany, le maire LR de Levallois-Perret, condamné et incarcéré depuis 6 semaines pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, a été fixé ce midi sur sa première demande de mise en liberté. La justice a répondu favorablement. L'élu des Hauts-de-Seine reste néanmoins en prison dans l'attente d'un second recours au sujet de sa condamnation pour blanchiment aggravé. 40 ans après la mort du ministre gaulliste Robert Boulin, sa famille refuse toujours de croire en la thèse du suicide. Elle a donc organisé une reconstitution officieuse ce matin. C'était au niveau de l'étang de la commune de Saint-Léger en Yvelines, dans le département des Yvelines. C'est là où a été retrouvé le corps de l'ancien ministre le 30 octobre 1979. À l'époque, l'enquête avait conclu qu'il s'était donné la mort, mis en cause dans l'achat d'un terrain dans le Var. Ses proches, eux, dénoncent un assassinat sur fond d'affaires politico-financières au RPR. L'enquête, rouverte il y a 4 ans, n'a pas donné de grandes avancées. La famille Boulin espère inciter la justice à accélérer le processus, Ariane Grissel.
Ce sont 2 témoins de l'époque qui reconstituent les faits, un urgentiste et un policier. Ils étaient là, ce 30 octobre 79.
Il y avait la bouche sortie de l'eau. Enfin, pas complètement, mais... partiellement en tout cas, et aucune trace de boue sur lui. C'est ce qui nous a étonné parce que ici, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Alors en tout cas,
c'était de la vase.
Ça c'est quand vous le ramenez que vous voyez qu'il n'y a pas de trace de boue, mais à 6-7 mètres.
Pendant 2h30, il raconte d'abord cet appel pour rechercher une personnalité susceptible de s'être suicidée. L'un voit le corps à un endroit du lac, le deuxième arrivé plus tard à un autre. La voiture du ministre aussi semble avoir été déplacée. Marie Dosé est l'avocate de la famille Boulin.
Des incohérences encore et toujours, mais en tout cas, à mon avis, une mise en situation efficace et révélatrice de quelque chose qu'il va falloir résoudre judiciairement. C'est pour ça qu'il faut impérativement que cette reconstitution puisse être judiciaire.
Ces témoins ont déjà été entendus, mais jamais amenés ici à l'étang du rompu. Pendant cette remise en situation, les proches comparent les récits des protagonistes aux photos de l'époque. Fabienne Boulin-Burja est la fille de Robert Boulin. C'est elle qui est à l'initiative de cette reconstitution.
Ça fait quand même 40 ans qu'on attend. Je pense que là, il faut qu'il y ait une priorité pour qu'on dise la vérité sur l'assassinat de Robert Boulin, sur le fait que c'est une affaire d'État. Moi, je pense que ça n'avance que si je fais avancer. Autrement, il y a une inertie honteuse. Mais moi, je ne lâcherai pas avant que mon père retrouve son honneur et que moi, en tant que citoyenne, je puisse avoir plus confiance dans la justice.
Cette remise en situation n'a aucune valeur juridique. Les proches de Robert Boulin veulent surtout inciter la justice à organiser une reconstitution officielle avant que tous les témoins de cette affaire aient disparu.
Le reportage d'Ariane Grissel. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 provoque l'inquiétude chez les personnes à mobilité réduite. L'article 28 du projet de loi modifie en effet la prise en charge des fauteuils roulants par la sécurité sociale. Bonsoir Jeanne Dossé.
Bonsoir.
Vous avez contacté l'association des paralysés de France. Quelles sont précisément les inquiétudes de cette association?
Alors l'APF redoute que cette mesure ne vienne limiter la liberté des personnes handicapées dans le choix de leur fauteuil. La mesure prévoit un nouveau remboursement de ces équipements à hauteur d'environ 600 euros, sachant qu'un fauteuil standard coûte en moyenne 3000 euros. Patrick Tripoteau, le directeur général adjoint de l'APF France, craint que la gamme de produits remboursés soit très réduite.
Si aujourd'hui des personnes en situation de handicap sur un type de fauteuil pouvaient avoir le choix, par exemple, de 100 fauteuils, demain ils pourraient peut-être n'avoir accès qu'à une trentaine de fauteuils qui leur seraient remboursés. Le choix du fauteuil est important. Il est très souvent sur mesure, donc il y a certains fauteuils qui ne permettront pas cette adaptation.
Selon le gouvernement, ce nouveau dispositif de remboursement permettrait à l'assurance maladie d'économiser 30 millions d'euros.
Alors, autre crainte de l'APF, elle concerne le remboursement des fauteuils d'occasion.
Oui, pour défendre cette mesure, l'exécutif évoque 10 millions d'euros d'économies et avance un argument écologique, celui de remettre en état des fauteuils plutôt que de les mettre à la casse. L'APF entend cet argument et ajoute que les personnes handicapées doivent pouvoir choisir un fauteuil d'occasion et être remboursées, mais l'association redoute qu'avec ce système, certaines personnes, notamment celles qui ont un revenu modeste, soient contraintes d'acquérir un fauteuil d'occasion.
Si un organisme financeur, que ce soit pour les maisons départementales des personnes handicapées, que ce soit la sécurité sociale, a le choix de financer entre un fauteuil à 14 000 euros qui est neuf et un fauteuil reconditionné à 4 500 euros, eh bien on voit tout de suite que le financeur va orienter la personne pour l'acquisition de cette technique reconditionnée. Peut-être que ce fauteuil-là, il y aura certaines options qu'elle ne permet plus et donc la personne ne pourra pas vraiment avoir son fauteuil adapté à ses propres besoins.
L'APF alerte aussi sur la qualité de ces fauteuils reconditionnés. Pour l'association, il faut qu'il y ait les mêmes garanties de sécurité que pour les équipements neufs, avec entre autres la traçabilité des pièces détachées et sur les conditions de réparation.
Merci Jeanne Dossé pour ce dossier à réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La météo demain, mardi 29 octobre, temps couvert et pluvieux sur la façade ouest, alternance de nuages et d'éclaircies au nord et en Nouvelle-Aquitaine, temps gris. Partout ailleurs, les températures au réveil, 8 à Strasbourg, 9 à Lille et Paris, 10 à Cherbourg, 14 à Lyon, 15 à Bordeaux, jusqu'à 19 à Marseille et 20 à Ajaccio. Il est 18h20 sur France Culture. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Je vous retrouve à 19h pour le rappel des titres.